Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, qui nous soutient, qui continue à conduire nos pas calmement, tranquillement, alors que nous poursuivons notre route vers l'éternité. Nous allons donc incliner très respectueusement notre tête dans la prière, le temps de demander à Dieu de nous donner toute l'intelligence dont nous avons besoin pour pouvoir recevoir sa parole. Demander à Dieu de nous faire du bien par et au travers de sa parole. Et en même temps, je vous demanderai de prier pour son serviteur afin qu'il puisse proclamer sa parole avec force, avec puissance, avec autorité. Et prier pour que cette parole trouve des consciences bien disposées à la recevoir, à l'accueillir comme étant la seule qui sauve, qui libère, comme la seule capable de nourrir notre foi et de la rendre de plus en plus dynamique. Oh, merci. Nous venons de le chanter, Seigneur, tu es un Dieu fort, un Dieu puissant, celui qui ne cesse d'accomplir de merveilles envers nous. Tu es, Seigneur, celui qui combat à nos côtés, qui combat pour nous. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison, et ce, quelles que soient les circonstances, de tourner des regards inquiets. Mais en toute chose, Seigneur, tu nous demandes d'avoir toujours nos yeux constamment tournés vers toi, d'avoir toujours une attitude, ô Dieu, de foi, de confiance entière et totale dans ce que tu es, mais aussi dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, grâce à laquelle, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Seigneur, merci. Merci de nous aider à expérimenter ta puissance au quotidien. Que ceci, Seigneur, les paroles de ce chant ne soient pas simplement des simples paroles, Seigneur, que nous répétons de manière mécanique, mais au-delà, ô Dieu, de simples mots constituant un chant, un cantique, que ces paroles, Seigneur, soient l'expression de notre foi vis-à-vis de toi. Seigneur, que tu nous aides, ô Dieu, à rester attachés à toi, le Dieu fort, à toi, le gardien de l'éternité, à toi qui tiens nos vies dans ta main, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à rester attachés à toi, car nous n'avons pas d'autre solution pour demeurer dans ton triomphe de la croix que de rester attachés à toi. Et ce, par une vie d'obéissance à ta parole, une vie, Seigneur, d'entière consécration à toi, une vie qui trouve pleinement son agrément en toi, une vie, ô Dieu, qui n'est que le reflet de ta gloire. Merci pour tout. Bénis ta parole, sanctifie-la dans nos cœurs, qu'elle puisse apporter rafraîchissement, onction, puissance, vie véritable à notre âme, à notre esprit, mais qu'elle puisse également être une source de guérison pour tous les corps malades qu'il y a parmi nous, mais aussi dans les corps qui nous suivent au travers des différents médias. Merci Jésus. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Merci Maître. Alléluia. Je vous prie donc de garder un moment de silence alors que nous avons nos têtes baissées vers lui, devant lui. Que le Seigneur nous aide à nous préparer à recevoir sa parole. Le Seigneur est là. Il est là devant toi. Tu l'as adoré, tu l'as loué. Tu lui as exprimé ta reconnaissance. Le moment arrive où il aimerait maintenant te parler, où il aimerait déposer quelque chose de neuf, d'authentique, de vrai, de véritable dans ta vie, afin que ta vie soit changée, soit transformée. Merci Maître. Merci Jésus. Tu as toute notre attention. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons marquer un temps de pause par rapport à notre thème qui nous a accompagnés pendant quelques dimanches, trois dimanches, où nous avons parlé de la nécessité de sortir de la barque, voyez-vous, afin de marcher sur les eaux agitées, afin de faire face à toutes sortes de houles, afin d'affronter la tempête quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose, et avec ce thème que j'aimerais vous proposer ce matin, je revisite un tout petit peu ce qui fut et est toujours ma première vocation, à savoir celui d'être évangéliste, celui d'annoncer l'évangile du Christ. Amen. Car il n'y a pas d'autre message aussi glorieux, aussi puissant que l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Partout où cet évangile est prêché, là les âmes sont sauvées, là les captifs, les esclaves du diable sont libérés, là le bonheur après lequel l'homme soupire et languit devient tout d'un coup une réalité palpable et tangible dans sa vie. Alléluia. Donc je voudrais parler aujourd'hui de la nécessité de prêcher, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ, pas un autre évangile. Voyez-vous, car la Bible nous met en garde contre toute tentative de prêcher un autre évangile que celui que Christ a confié aux apôtres. Cet évangile, eh bien, que ses disciples ont proclamé un peu partout, en son temps, et puis plus tard, cet évangile qui a retenti et qui continue à retentir jusqu'aujourd'hui parmi le peuple de Dieu et vis-à-vis du monde perdu. Nécessité de proclamer, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Nous sommes donc au début de cette aventure merveilleuse que le monde va vivre, qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'annonce et la proclamation non seulement du royaume de Dieu, mais aussi et surtout du règne de Dieu. Actes chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Ce donc qui avait été dispersé allait de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement ou l'émerveillement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses sortilèges, ses procédés magiques. Mais, heureusement, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Amen. Gloire au Seigneur. L'évangile du règne de Dieu, l'évangile qui manifeste de manière glorieuse et puissante le règne de Dieu sur cette terre, cet évangile-là, frères et sœurs, c'est celui que le Christ lui-même avait confié d'abord et avant tout à ses apôtres, et puis ensuite à tous ses disciples, qui dès le départ avaient réalisé la nécessité de le proclamer, de s'adresser à toute conscience humaine, voyez-vous, pour lui annoncer la bonne nouvelle du Christ mort pour le péché de l'humanité, du Christ ressuscité pour le salut de l'humanité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est donc cet évangile du règne de Dieu, cet évangile du Christ, que ce humble serviteur de Dieu, Philippe, qui n'avait aucun titre, voyez-vous, qui n'était qu'un diacre, peu importe, mais qui avait compris cette nécessité, voyez-vous, d'aller proclamer cet évangile aux hommes et aux femmes de la Samarie. Et il est parti, il a annoncé simplement, il a annoncé naturellement, il a annoncé, mes amis, seulement le Christ, et le résultat, comme nous l'avons lu, furent plus qu'extraordinaires. Cette région va connaître, mes amis, un réveil. Cette région va expérimenter des choses extraordinaires. Cette région va faire l'objet d'une visitation extraordinaire du royaume de Dieu et du règne tout-puissant du Créateur. Tout cela par la simple annonce, la simple proclamation de l'Évangile du Christ. Gloire à Dieu. Amen. Donc le seul antidote au poison, mes amis, que représente le péché dans la vie de l'homme, la seule solution aux préoccupations de tout homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa forme, son apparence physique, l'Évangile. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, vous l'avez observé, nous le vivons tous les jours, la science a fait d'énormes progrès dans pratiquement tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la science médicale, dans le domaine de la pharmacie, de la pharmacologie. Beaucoup de choses, eh bien, ont évolué et évoluent depuis déjà pas mal d'années, ce qui permet à l'homme d'aujourd'hui de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps qu'il y a 50, qu'il y a un siècle. Et le monde médico-pharmaceutique a donc développé et continue de développer toutes sortes de médicaments permettant à l'homme de pouvoir faire face à toutes sortes de pathologies, permettant à l'homme d'être à l'abri de toutes sortes d'épidémies, de toutes sortes d'infections d'origine virale, bactériologique ou autre. Voyez, des médicaments sont aujourd'hui à la portée de l'homme qui lui permettent donc de guérir par rapport à différentes maladies, différentes pathologies dont il souffre. Voyez-vous? Et dans ce milieu-là, et quelquefois pour une pathologie donnée, eh bien, il arrive que la médecine propose, eh bien, différentes molécules pour combattre la même pathologie, la même maladie. Voyez-vous ce qu'on appelle les succédanés de médicaments, voyez, donc qui possèdent des propriétés proches d'un autre et qui peuvent être utilisés pour combattre la même maladie. Gloire à Dieu, alléluia. Et aujourd'hui, on en trouve sur le marché toutes sortes de molécules pour une même maladie. Ben, le pharmacien ou le médecin traitant va donc vous proposer toutes sortes de molécules. Que Dieu soit donc béni. Mais il arrive aussi, et ça c'est tout le mystère du corps humain, que l'homme guérisse, nos corps se guérissent tout seuls, mais très souvent, dans la plupart des cas, nous avons besoin de ces médicaments, nous avons besoin, voyez, de ces traitements médicaux. Cependant, frères et sœurs, quand on en vient à la plus terrible des maladies dont souffre l'homme, lorsque nous arrivons à la plus terrible de pathologies, mes amis, dont souffre l'humanité, eh bien, il n'existe aucun autre médicament que l'Évangile et l'Évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En ce qui concerne cette maladie qui détruit l'âme, qui détruit l'esprit de l'homme, qui détruit son corps et qui l'éloigne pour l'éternité de son Créateur, eh bien, la parole de Dieu ne nous propose pas 2, 3, 4 recettes spirituelles ou religieuses, pas du tout. La parole de Dieu est claire. La solution par rapport à la maladie dont souffre l'homme, cette maladie plus terrible que le sida, plus terrible que le virus le plus méchant, le plus terrible qui soit, eh bien, par rapport à cette maladie, il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs, en dehors de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile doit être annoncé, proclamé un peu partout dans le monde. Et nous devons veiller à sa pureté. Qu'il ne soit pas altéré, galvaudé, d'une manière ou d'une autre. Car l'ennemi fera tout pour essayer de corrompre cet évangile. Et croyez-moi, déjà à l'époque de Paul, un autre évangile était prêché. C'est ainsi que Paul a mis en garde ses lecteurs. Voyez-vous, contre toute tentative de céder aux sirènes d'un autre ou des autres évangiles, mais de rester attaché absolument, absolument, mes amis, à l'évangile du Christ, celui qui l'a proclamé, celui que les apôtres ont proclamé, celui que les hommes proclament depuis que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est retourné auprès du Père, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Eh bien, cet évangile doit être prêché encore aujourd'hui dans toute sa grandeur, dans toute sa noblesse, dans toute sa pureté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car nous courons tous les dangers, mes amis, d'altérer cette parole. Nous courons tous les dangers de la corrompre, de faire de la parole de Dieu un objet de commerce et d'essayer de l'adapter selon les milieux, quitte à nous rendre populaires ou célèbres. Combien de prédicateurs ont écrémé la parole de Dieu pour l'adapter à leur assistance, pour donner aux gens ce dont ils avaient envie d'écouter, oui ou non? Et dans leur message, ils cautionnent des pratiques abominables. Voyez-vous, tout cela pour faire l'unanimité. Tout cela parce qu'ils sont en quête de célébrité, en quête de notoriété. Voyez-vous? Non. L'évangile du Christ reste le seul message dont tout homme a besoin d'entendre. L'évangile de Jésus, nous devons le prêcher. Mes amis, quelle que soit l'époque, et l'ennemi a très bien compris, dès le départ, lui le séducteur. C'est ainsi qu'il faudra corriger une parole dans un des chants qu'on a chanté. Je ne sais pas si vous avez été très attentif, dans un des chants qu'on a chanté, on a dit ceci, je cite, « Séduit par ta face dans les paroles ». Il ne faut plus rechanter ça. Dieu ne séduit personne. C'est le diable qui est le séducteur. Ça doit probablement être traduit de l'anglais, mais dans ce cas, il faut faire très attention. Dieu ne peut ni corrompre quelqu'un pour qu'il se tourne vers lui, ni séduire qui que ce soit. En français, le mot séduire a toujours une connotation péjorative. Et la Bible nous présente le diable comme étant le dont Dieu ne séduit personne, il n'a aucun intérêt, et pour atteindre cet intérêt dans l'homme, utiliser des voies détournées. Essayer de le flatter, comme le diable l'a fait. Il a séduit Ève par un discours séducteur. Voyez, dont les gens doivent entendre ce message, le seul qui puisse permettre à l'homme de rencontrer son Créateur. Quelle tristesse de voir encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, des hommes et des femmes s'attacher à la pratique religieuse quelle qu'elle soit, des hommes et des femmes payer des sommes exorbitantes pour aller dans tel ou tel autre lieu de pèlerinage, dans le but de plaire à Dieu ou dans le but d'échapper à l'influence et à l'attraction des puissants des ténèbres. 2000 ans plus tard, il y a encore des hommes et des femmes qui se cherchent et qui pensent trouver la solution dans la religion, dans la pratique religieuse, même monothéiste. Aucune pratique religieuse n'est capable de libérer l'homme de la pesanteur du péché. Aucun homme, aucun prophète avec son discours ne peut permettre à l'homme, mes amis, d'échapper à la mort spirituelle qui est la plus terrible des morts, c'est-à-dire cette séparation de l'âme de l'homme avec son Créateur et ce pour l'éternité. Aucun homme, aucun discours philosophique, aucun discours théologique, aucun discours religieux ne peut justifier l'homme aux yeux du Créateur si ce n'est l'évangile véritable de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le diable l'a bien compris, comme je le disais, que l'évangile est le seul message qui sauve l'homme. Il a très bien compris, et pour séduire les gens, pour essayer de les occuper, afin qu'ils n'aient pas le temps de se tourner vers l'évangile du Christ, eh bien, le diable a ouvert, et il a toujours fait, depuis que le Saint-Esprit est à l'œuvre sur cette terre, au nom de Jésus-Christ, eh bien, il a ouvert un peu partout dans le monde, et encore aujourd'hui, il n'arrête pas de le faire, il a ouvert toutes sortes d'officines religieuses, spirituelle, officine qui propose toutes sortes de recettes spirituelles, soi-disant de nature à calmer la souffrance de l'homme, soi-disant libérer l'homme du joug satanique. Mes amis, nous devons faire très attention. Les temps sont mauvais. Le Seigneur revient. Et dans ce temps de la fin, le diable s'attaque de plus en plus au message de l'Évangile. C'est ainsi qu'ailleurs, on prêche un autre Jésus que celui qui est issu de la postérité de David. On prêche un autre Évangile, comme s'il y en avait un autre Évangile, un autre message. Voyez, l'Évangile du Christ. La Bible déclare que tous ont péché. Voilà le verdict de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a aucun juste aux yeux du Créateur. L'humanité patauge dans le péché. L'humanité, mes amis, est séparée de son Créateur à cause de la présence de cette horrible et terrible réalité que le péché. À cause de la présence du péché, l'humanité, mes amis, s'égare davantage de son Créateur. Et chaque jour qui passe, eh bien, la rapproche du jugement et de la condamnation de Dieu. Car il y aura un temps pour tout. Aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, permet que cette parole soit annoncée un peu partout. Et je me réjouis de ce qu'avec les médias, avec tout ce développement dans le domaine de la télécommunication, eh bien, même des pays qui jusque-là sont fermés à l'Évangile, eh bien, peuvent suivre cet Évangile au travers de toutes sortes de médias. Voyez-vous? Dieu est en train de préparer son Église. Voyez-vous? Dieu est en train d'appeler les hommes et les femmes au salut, et ce, par la trompette de l'Évangile. Et Philippe l'avait bien compris. Il est descendu en Samarie, non pas avec une nouvelle religion. Il est descendu en Samarie, mes amis, non pas avec une nouvelle pratique religieuse, une nouvelle philosophie, que sais-je, pas du tout. Il est descendu avec l'Évangile du royaume de Dieu, alléluia. Il est descendu, il a prêché uniquement Jésus. Il n'a pas cherché des tralala pour essayer de manipuler les gens et les pousser, les forcer à croire en Christ, pas du tout. Nous n'avons pas besoin d'ajouter au message du Christ. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement de proclamer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le verdict de Dieu. Nous ne sommes tous pécheurs, voyez-vous. Nous ne sommes tous avec cette capacité de commettre des actes ignobles aux yeux du Créateur. À cause du péché, tous nous sommes séparés de ce Dieu-là. Et à cause du péché, mes amis, nous sommes dans cet état moral et spirituel que la Bible appelle la mort spirituelle. Et la Bible d'ajouter, non seulement tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, la Bible d'ajouter que le salaire du péché, c'est la, mes amis, la mort est une des conséquences, hélas, de la présence du péché sur la terre, dans ce monde, dans l'homme. L'homme meurt, non pas parce que Dieu avait choisi qu'il meure. L'homme meurt parce qu'un jour, il avait fait le choix de tourner son dos à Dieu et d'ouvrir ses bras au diable. Et depuis, mes amis, le péché est devenu une réalité. Et depuis, le péché corrompt l'humanité. Depuis, le péché, mes amis, eh bien, éloigne davantage l'homme de son Créateur avec toutes les conséquences que cela entraîne. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il est venu sur cette terre dans la personne du Christ donner sa vie, alléluia. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour te sauver, toi, mon frère, ma sœur qui est là, ce matin à la borne. Mais il est venu te sauver, toi qui m'écoutes à la télé, qui me suis à la radio. Jésus est venu pour toi. Il a donné sa vie pour qu'un jour, tu puisses expérimenter le salut. Car ne pourront échapper à la colère de Dieu, à la condamnation qui s'abattra sur cette terre, que ceux qui un jour ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Car ceux-là, en rencontrant Jésus, ont quitté cet état de culpabilité, cet état de séparation d'avec Dieu, pour entrer dans une relation de réconciliation avec lui. Eux, ceux-là qui sont en tant que Christ, sont donc passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et sont devenus ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour le salut de l'homme, frères et sœurs, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas deux recettes ou trois recettes religieuses et spirituelles, pas du tout. Il n'y a que l'évangile du Christ et l'évangile de Jésus seul. Alléluia. Ne dites jamais, depuis 2000 ans, on ne prêche que le même évangile. Oui, c'est le même évangile, il n'a pas changé. En dehors de lui, eh bien, tout n'est que condamnation, tout n'est qu'horreur, tout n'est que perdition. Puisque l'évangile est le seul remède, c'est le seul moyen, mes amis, que le Seigneur a donné à l'Église pour pouvoir arracher les âmes des griffes du diable et les introduire dans le royaume des cieux, puisqu'il en est ainsi, eh bien notre tâche, non seulement en tant qu'évangéliste, non seulement en tant que pasteur, notre tâche, non seulement en tant qu'apôtre ou autre, mais aussi en tant que disciple de Jésus-Christ, est de placer ce remède sur la table et d'inviter les gens à venir prendre ce remède pour être sauvés. Gloire à Dieu. Certes, certains rejetteront ce médicament. Certes, certains l'accepteront, peu importe. Dieu nous demande simplement d'annoncer cet évangile autour de nous. Ne dites pas qu'à Kinshasa, il y a autant d'églises, mes amis. Ne dites pas qu'à Kinshasa, il y a autant de lieux où la Bible est prêchée, enseignée. Annoncez l'évangile. Car le danger, justement, c'est celui-là. C'est que beaucoup d'entre nous, le fait de voir tout autour de nous pas mal d'églises, pensent que tous ceux qui fréquentent les églises sont donc sauvés. Voyez-vous ? Il y a même des sorcières qui ont simplement enlevé leur peau, je ne sais de quel animal, pour mettre une chemise avec un col pastoral, essayer d'attirer les gens. Quelqu'un m'a dit ça, un pasteur m'a dit ça. Il a rencontré, je crois, un sorcier de sa région ou de sa province. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde devient pasteur, et quand on devient pasteur, on peut mieux vivre. Voilà. Et pour être pasteur, il suffit d'une chemise avec un col dit pastoral. Et puis on se met à raconter des histoires. Nous devons faire très attention. Voyez-vous. Notre devoir, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de parler avec les gens. C'est de savoir s'ils sont avec Jésus ou pas. Et non pas de savoir s'ils fréquentent la borne ou les extensions de la borne. Notre problème, notre souci ne devrait pas savoir si telle ou telle autre personne fréquente une congrégation qui se réclame de Jésus. Car il y en a qui fréquentent tous ces lieux-là, qui sont certes consacrés au Seigneur, mais qui n'ont jamais fait d'expérience avec Jésus. Et qui pensent que le simple fait de taper les mains, le simple fait de danser, le simple fait de chanter, de chants qui élèvent le nom de Jésus suffirait. Dans notre ville de Kinshasa, où la musique est omniprésente, eh bien, quelle que soit sa nature, vous trouverez même les gens du monde, après avoir bu, après s'être enivré, après avoir fumé de la drogue, eh bien, chanter « Yesu azaliawa ». Le Seigneur est ici, Jésus, etc. Nous devons faire très attention, mes amis. Et l'ennemi surfe là-dessus, sur le fait que beaucoup entendent le nom de Jésus. Et on laisse les gens. Des concerts sont organisés à gauche, à droite, de louanges ou d'adoration, c'est très bien. Les gens viennent, les gens dansent, c'est très bien tout ça. Mais si on danse simplement parce qu'il faut danser, sans qu'il y ait eu au préalable une démarche en amont de rencontrer le Seigneur, tout ça ne sert à rien. Voyez ? Philippe était convaincu que la seule puissance salvatrice dont les Samaritains avaient besoin, c'était celle qui était manifestée lorsque l'évangile de Jésus était prêché. C'est ainsi qu'il est descendu dans ces lieux, dans cette ville-là de la Samarie, pour annoncer le Christ car il était convaincu que le salut de ces hommes et de ces femmes vivant dans cette ville-là, dans cette région-là, dépendait de leur attitude vis-à-vis du Christ. Voyez-vous? Il n'est pas parti avec un message flatteur ou manipulateur, pas du tout. Il est parti avec une personne, Jésus de Nazareth. Celui qui l'a annoncé, mes amis. Et les résultats ont été plus que extraordinaires. L'évangile du royaume de Dieu, qui manifeste le règne de Dieu parmi les hommes. Pas une nouvelle religion, pas une nouvelle pratique, voyez-vous. Il y en a de plus en plus, aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, toutes sortes de prédicateurs qui proposent à l'heure d'aujourd'hui d'autres messages que celui que le Christ a laissé à ses apôtres. Mes amis, notre âme n'a pas de prix, voyez-vous. Nous ne devrions pas l'abandonner entre les mains de tel ou tel autre aventurier. Nous ne devons pas non plus nous contenter simplement du fait qu'à Kinshasa, eh bien, comme le pasteur Franck, le philâtre, l'a souligné la fois dernière, il y a partout des messages, des versets bibliques, même derrière ce qu'on appelle les esprits des morts. Ces minibus-là, vous verrez toujours « Jésus t'aime, Jésus ceci », etc. Et ça conduit même, mes amis, à la distraction. Ça banalise le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, on le met à toutes les sauces. Attention, vous ouvrez une boutique, vous mettez Jésus sauve, alors que vous-même, vous n'êtes pas sauvé. Simplement pour attirer la clientèle féminine. Parce qu'on sait que tout le monde aime Jésus. Alors pour bien vendre, on met le nom de Jésus sur la devanture de son magasin ou de sa boutique. Attention. Attention, mes amis. Nous devons faire très attention. Il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas encore entendu véritablement ce message, qui courent après des prophètes qui pullulent et qui sévissent dans Kinshasa et un peu partout à travers le monde. Voyez-vous? Qui courent après tel ou tel autre apôtre. Comme je l'ai déjà souligné à plus d'une fois, il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes qui se proclament apôtres, qui se proclament prophètes ou prophétesses dans cette ville de Kinshasa. Et hélas, il n'y a jamais eu autant d'immoralité qu'il y en a aujourd'hui, autant de corruption dans tous les domaines, même parmi les gens qui, soi-disant, prient. Voyez, ils viennent, ils lèvent les mains, mais ils sont le premier à voler. Voyez, des commissions de tout genre. C'est le mensonge, hein? Ça revient autant. On va dire à son patron, non, ça revient autant. On ajoute 10%. C'est du vol. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Voyez, pas une nouvelle religion, pas une nouvelle philosophie, pas une nouvelle théologie, pas une nouvelle pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Le salut se trouve dans une personne. Et cette personne, c'est celle que l'Évangile annonce, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ô gloire au Seigneur. Nous devons prêcher cet évangile. J'ai reçu un de nos pasteurs qui travaille dans le cadre des Assemblées de Dieu du Congo et qui évolue à Inongo. Il est venu me rendre visite. C'est la première fois que je le rencontrais. Je ne sais pas s'il est là. Il m'a partagé un tout petit peu ce qu'il faisait. Et depuis quelque temps, je priais et j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était une des réponses à mes prières. C'est-à-dire essayer d'atteindre des gens ici au Congo qui n'ont jamais été atteints. Voyez? Il m'a parlé de son travail là à Inongo, dans des conditions évidemment très difficiles, et comment ils ont un ministère parmi les pygmées. Et moi, je priais justement que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir soutenir des gens, non pas qui restent à Kinshasa pour ouvrir des églises. Kinshasa est saturé. J'aimerais vous le dire. Soutenir des gens qui prennent le risque d'aller vers ces bien-aimés pygmées et leur apporter le message de l'Évangile. Voyez-vous, il m'a parlé de ce peuple Ntois, qui sont des pygmées. Comment ils vont là-bas? Ils n'ont rien. Il m'a dit, pasteur, il nous arrive d'avoir un peu de vêtements pour leur apporter. Et je lui ai dit tout de suite, Frère, il est venu dans des conditions difficiles, traverser le lac Maïndombe, prendre le camion dans des conditions difficiles jusqu'à Kinshasa. Je lui ai dit, pour ce que tu fais, l'Église va t'offrir un billet d'avion. Ça vaut la peine, non? Le frère était touché. J'ai dit, nous allons t'offrir un billet d'avion, Kinshasa-Inongo. Et nous allons faire une mobilisation pour avoir des vêtements à envoyer à ces pygmées pour qu'il aille leur dire que Jésus les aime et qu'à la borne, il y a des gens qui prient pour eux. Et ça tombe bien, comme le Seigneur fait toujours bien les choses, il y a une sœur qui est parmi nous, dont son mari est justement juge là-bas, qui a déjà été là-bas à quelques reprises, et qui m'a vu ensemble, et on a partagé, elle a été voir ce peuple, ces femmes pygmées, dont certaines étaient presque nues, mes amis. Ces gens-là doivent entendre que Jésus les aime. Et il est mort aussi pour les pygmées, oui ou non? C'est donc notre devoir de pouvoir prier pour ces gens-là, mais aussi de soutenir tous ceux qui travaillent parmi les pygmées. Car nous aimerions, c'est ma prière, en ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, lorsque le cri retentira, lorsque la voix de l'archange, proclamera la venue du Christ, le retour du Christ, qu'il y ait parmi ceux qui seront sauvés aussi des pygmées. Alléluia. Aussi ces hommes et ces femmes qui, malgré leur apparence, sont des âmes faites à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez. Et certains ont eu à lui dire que depuis que certains missionnaires sont passés, on n'a plus vu personne. Ou alors certains nous ont ONG pour faire leur publicité et aller chercher de l'argent un peu partout dans le monde, sont passés faire des photos, ils sont partis pour ne plus revenir. Je me souviens du pasteur Mono, vous vous rappelez de Lumbashi, qui est passé par ici chez nous, qui à un moment était même resté avec nous pendant un mois. Il nous avait raconté dans une prédication comment il avait été prêché parmi les pygmées du côté de Manono. Qui aujourd'hui le fait? S'il y en a qui le font, que le Seigneur le bénisse, alléluia. Nous devons soutenir ces genres d'actions, parce qu'eux aussi, ont besoin d'entendre l'évangile du Christ. Donc je disais, Philippe est parti dans cette région de la Samarie avec une personne, Jésus de Nazareth. Alléluia. Malgré l'hostilité qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains, cet homme a fait fi de tout ça, mu par l'amour du Christ, voyez-vous, ne tenant pas compte des réactions qu'il pouvait avoir de la part des Samaritains par la présence d'un Juif. Cet homme, mes amis, rempli de l'amour du Christ, mu par l'amour du Seigneur, est parti en Samarie pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est qu'il n'est pas, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un idéal à poursuivre. Voyez-vous? Nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes d'idéologies qui proposent toujours un idéal. L'idéal communiste, l'idéal capitaliste, l'idéal ceci ou cela. Mais l'évangile n'est pas un idéal à poursuivre. Ce n'est pas non plus un but à atteindre. Écoutez simplement l'évangile, voyez-vous, et puis ça va, ça y est. Et beaucoup ont fait de l'évangile un simple but à atteindre. Ils ont écouté l'évangile et ils n'ont pas été loin. Et ils se contentent simplement de se dire, oui, Jésus est venu, Jésus a donné sa vie à la croix, Jésus est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, ils font des prières mécaniques ou machinales, ils s'arrêtent là. Non, l'évangile n'est pas un but à atteindre, encore moins une influence à subir, voyez-vous, ni un code moral à observer, ni une nouvelle philosophie à suivre. Le monde est rempli de toutes sortes de philosophies. Voilà ce qu'il n'est pas. Ni un message religieux comme il y en a tant d'autres. Et comme il y en a eu dans le passé. Voyez-vous? Depuis que l'homme existe, l'homme ayant été fait à l'image de Dieu, il a toujours cherché à combler le vide laissé par l'absence de Dieu dans sa vie, essayer de le combler par toutes sortes de croyances religieuses et spirituelles. Donc que quelqu'un croit, cela ne devrait pas nous étonner, car l'homme est fait pour croire. S'il ne croit pas en Dieu, son créateur, il croira dans la créature, il croira dans la nature, il croira en lui-même. Voyez-vous, il est fait pour croire. Qu'est-ce que c'est alors l'évangile? S'il n'est ni un message religieux, s'il n'est ni un idéal à poursuivre, une influence à subir, un code moral à observer, et dans la plupart des cas, de manière mécanique, comme ça se fait dans beaucoup de religions, eh bien l'évangile, frères et sœurs, l'évangile est une personne à recevoir afin d'expérimenter le salut. L'évangile est plus qu'un message. L'évangile, mes amis, est plus qu'une information qu'on donne sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. L'évangile, mes amis, eh bien, c'est une personne, le ressuscité du troisième jour, que nous mettons en contact avec les âmes perdues. Gloire à Dieu. C'est ça l'évangile. Car il faut recevoir Christ après avoir reçu le message pour expérimenter la vie éternelle. Selon qu'il est dit dans la parole de Dieu, que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle se trouve dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui donc qui n'a pas le Fils n'a pas la... Donc vous ne pouvez pas trouver homme, femme qui m'entend ce matin. Vous ne pouvez pas trouver la vie éternelle dans votre pratique religieuse. Vous ne pouvez pas la glaner quelque part dans un lieu de pèlerinage. La vie éternelle est la conséquence de la présence de Jésus dans la vie d'un individu. Gloire au Seigneur. Prêchez donc l'évangile. C'est plus que donner des informations éparses sur Christ. Prêcher l'évangile, c'est annoncer une personne, Jésus de Nazareth, le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Prêcher Christ, prêcher l'évangile, c'est mettre Jésus ressuscité en contact avec les âmes perdues. Philippe, en descendant en Samarie, il est parti avec un nom, plus qu'un nom, il est parti avec une personne. Cette personne que lui-même avait expérimentée dans sa vie, pour pouvoir mettre cette personne en contact avec les perdus de la Samarie. Et résultat, quand le ressuscité est mis en contact avec les perdus, et que les perdus répondent favorablement à son appel, quelque chose se passe. Les gens sont sauvés, les gens sont pardonnés. Alléluia, gloire au Seigneur. La déclaration de l'évangile reste la même depuis que les apôtres proclament ce message de vie. La déclaration de l'évangile, c'est que Jésus sauve, gloire à Dieu, au présent. Car c'est Jésus-là est le grand je suis. Son message est d'actualité, puisque lui aussi est d'actualité. Des hommes sont venus avec des messages, soi-disant venant de la part du Créateur, soi-disant de la part des anges. Mais ces hommes sont passés, ils sont morts. Un seul est venu d'en haut. Un seul a apporté la vie sur terre. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Celui donc que nous devons prêcher. Mes amis, cherchez plus celui-là. Nous les hommes nous passerons. Nous ne sommes que des simples outils. Voyez-vous? C'est pourquoi c'est une folie pour un homme ou une femme qui se réclame de Dieu, de chercher la recommandation de la part des hommes. C'est ainsi que beaucoup, en quête de cette recommandation, se bardent de toutes sortes de titres. Ils veulent absolument qu'ils soient reconnus prophètes. Ils veulent absolument qu'ils soient reconnus apôtres. Qu'ils soient reconnus bishop ou quadrishop. Nous n'avons que faire de tout ça. C'est le Seigneur qui nous recommande. Alléluia. Maintenant que les gens nous reconnaissent ou ne nous reconnaissent pas, Paul lui-même dit aux Corinthiens, que vous me traitiez de petit apôtre, que vous me traitiez de grand apôtre, ça m'importe peu. Ma recommandation vient du ressuscité. Alléluia. Voyez. Mes amis, si une personne n'est pas véritablement sauvée par la foi en Christ, par une rencontre personnelle avec Jésus, eh bien cette personne est une véritable candidate pour l'enfer. Nous devons annoncer ce message. Il n'y a pas de salut post-mortem. On meurt, on a une famille de croyants. Il y en a qui bercent cette fausse illusion, qui vivent avec cette fausse illusion en disant « ma femme prie beaucoup. Hein. S'il m'arrivait un accident, elle organiserait ceci après ma mort. » Locuta, faux. Mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, que tu sois ici ou que tu sois là-bas, nous suivant à travers la télévision, sache une chose, il est réservé aux hommes, nous dit la parole, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de salut après la mort. Ne te berce pas à ce genre d'illusions. C'est l'ennemi qui t'a aveuglé et qui t'amène à croire que le fait qu'on mette une croix sur ta tombe pourra t'assurer l'éternité. Faux, archi-faux. Ce qui est terrible, évidemment, c'est rentrer dans le mœurs et dans nos cultures. Vous allez trouver la croix qui est symbole de vie, certes de la mort, mais la mort qui conduit à la vie, c'est-à-dire la mort du Christ. Alléluia. Vous allez trouver ce croix même sur les tombes de gens qui ont insulté Jésus tout au long de leur vie. Des gens qui n'avaient rien à cirer avec la foi chrétienne. Voyez ? Mais vous trouvez une croix, mais c'est la croix de jugement. Voyez-vous ? Je crois que beaucoup, quand ils arrivent de l'autre côté, ils se retournent trop tard. Eh oui, mon frère, ma sœur, ne te berce pas d'illusions. Il n'y a pas de salut par procuration. Oh, ma femme prie beaucoup. Oui, c'est bien. Ma femme jeûne beaucoup. Oui, c'est bien. Voyez-vous ? Elle prie pour toi, c'est très bien. Mais sa prière ne pourra jamais te sauver. La prière peut créer des conditions qui te permettent à toi de t'engager personnellement vis-à-vis de la personne du Christ. Car ce n'est que par une rencontre personnelle avec le ressuscité du troisième jour que nous pouvons expérimenter cela. Oui, Jésus, je veux m'arrêter là. Jésus sauve de la colère, mes amis. Jésus sauve du jugement et de la condamnation. Jésus sauve de l'enfer. Jésus sauve de l'esclavage, quelle qu'elle soit. Jésus sauve, mes amis, du diable et des ténèbres spirituelles et morales. Quand il s'est révélé à Paul, là, dans Actes 26, écoutez ce que Paul dit, rapporte au roi Festus, devant le roi Agrippa plutôt. Paul lui dit ceci, il lui partage son expérience qu'il avait faite sur le chemin de Damas. Il lui rapporte les paroles que le Seigneur Jésus lui avait données. Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 26, verset 15. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Le Seigneur n'est pas apparu à Paul pour lui donner une carrière et assurer sa retraite. Voyez? Le Seigneur ne lui est pas apparu pour qu'en fait il ait une occupation professionnelle pour pouvoir bien vivre. Certes, quand on prêche l'évangile, le Seigneur pourvoit nos besoins. Mais il ne nous appelle pas parce que nous en avions assez du chômage. Et beaucoup agissent comme ça. On n'a pas réussi ici à gauche, à droite, alors on va vite dans une école biblique. On en sort avec un diplôme, voilà, je suis pasteur. Et on commence à chercher du travail, hein, pastoral, entre guillemets. Écoutez ce que lui dit. Je te suis apparu, voilà, voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris, ou je t'ai arraché littéralement de ce peuple, du milieu de ce peuple des païens, vers qui je t'envoie. Maintenant, regardez pourquoi il a envoyé Paul vers les païens et les juifs. Voilà pourquoi il a envoyé Philippe en Samarie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent, qu'ils se détournent des ténèbres, et se tournent vers la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Alléluia.
Voilà pourquoi
le Seigneur a suscité tous ses serviteurs. Mes amis, frères et sœurs, je voudrais terminer mon message en vous demandant de vous incliner et de considérer très attentivement votre vie à la lumière de ce qui vient d'être dit. Vous êtes peut-être régulier à nos cultes, ici, mais vous n'avez jamais fait de rencontre personnelle avec Jésus. Vous nous suivez à travers la télé, la radio, et nous vous en remercions, mais vous n'avez jamais pris la décision d'inviter personnellement Jésus dans votre vie, afin d'expérimenter le pardon de vos péchés, afin qu'il vous libère de votre culpabilité, cette culpabilité qui vous ronge, ces actes ignobles que vous aviez commis dans le passé. Avec le temps, eh bien, vous ne dormez plus, car toutes ces choses vous reviennent sous forme de cauchemars, et vous n'en pouvez plus. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes rendu compte qu'aucun pasteur, qu'aucun prêtre, qu'aucun imam, qu'aucun rabbin n'a pu soulager votre culpabilité, votre conscience. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Jésus, ce matin, si tu lui donnes l'occasion de venir dans ta vie, il va alors te pardonner par rapport à ton passé. Il va alors effacer ton passé, faire table rase de ton passé, car il n'y a que son sang et son sang seul qui a le pouvoir de racheter notre passé, de racheter notre vie, quelle que soit sa noirceur. Voyez-vous? Alors, si tu veux recevoir ce Jésus, eh bien, lève simplement la main là où tu es. Vous qui êtes là, vous qui voulez l'expérimenter dans votre vie. Alléluia, merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est là. Les Samaritains ont reçu, non pas une religion, ont accueilli, non pas une nouvelle pratique spirituelle, mais ont rencontré une personne, Jésus de Nazareth. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci également pour vous qui nous suivez à la télé et qui allez bientôt prendre la décision d'accepter Jésus. Alors que je veux prier avec les amis qui ont levé leurs mains ici, vous qui nous suivez à la télé, à la radio, priez avec nous. Et c'est Jésus-là, comme il a visité les Samaritains, et nous le verrons la fois prochaine, eh bien c'est Jésus-là vous visitera également, vous accordera le pardon dont vous avez besoin, vous restaurera, vous libérera d'un passé terrible, ce passé qui vous hante, ce passé qui est à la base de toutes sortes de cauchemars. Vous ne vivez plus dépressif à cause de tout cela. Jésus va venir dans votre vie et mettre de l'ordre. Vous qui avez levé vos mains, eh bien je vous demande de vous lever là où vous êtes et vous allez faire cette prière après moi. Alléluia. Vous allez faire cette prière, merci, pour toutes ces personnes qui se sont levées. Aujourd'hui, le ciel va se réjouir parce que vous allez donner votre vie à celui qui est assis sur le trône dans le ciel. Le ciel attend votre décision pour se réjouir, pour danser. Car comme le Christ lui-même l'a dit, il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur, pour un seul égaré, pour une seule brebis qui revient à la bergerie. Et c'est votre cas. Alors priez avec moi, répétez cette prière et faites-la, faites de cette prière votre prière. Seigneur Jésus, merci pour le message de ta parole. J'ai toujours entendu parler de toi. J'ai toujours su que tu étais ceci ou tu étais cela. Mais je n'avais jamais pris de décision de te rencontrer personnellement. Je n'avais jamais pris la décision, Seigneur, de t'inviter à venir dans ma vie pour pardonner ma vie, Seigneur, et m'aider à commencer une nouvelle vie avec toi. Oh, pardonne mon passé, Seigneur. Pardonne mon présent, car ma vie n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Tu es mort à la croix pour moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et viens dans ma vie. Viens pour que je ne sois plus seul à me battre. Viens dans ma barque pour que la victoire, ta victoire, devienne ma victoire. Merci, Jésus. Je te reçois. Je t'accueille dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Merci, Maître. Tu es avec moi maintenant. Tu es en moi maintenant. Je ne suis plus seul. Tu es mon Sauveur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. pour la mort, ta mort à la croix et ta résurrection d'entre les morts. Merci Seigneur. Sachez que si vous avez pris cette décision aujourd'hui, si vous avez fait cette prière sincèrement, eh bien selon ce que le Seigneur nous a fait comme promesse, il est entré dans votre vie. Vous ne ressentez peut-être rien, il n'y a rien qui se passe de particulier, mais il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur a entendu votre prière, c'est que le Seigneur est entré dans votre vie. Désormais, vous n'êtes plus seul. Puisqu'il est dans votre vie, alors je vous demanderai simplement de lui dire merci. Seigneur, merci, maintenant tu es dans ma vie. Merci, je ne suis plus seul. Merci, désormais, tu vas m'accompagner dans mon pèlerinage ici-bas. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes qui ont réagi positivement à ta parole. Seigneur, merci d'être venu dans leur vie. Elles avaient une religion, ces personnes. Elles avaient une connaissance religieuse ou même historique de toi, mais elles n'avaient jamais fait de rencontre personnelle avec toi. Mais ce matin, ces personnes t'ont ouvert la porte de leur vie. Ces personnes t'ont demandé de venir en elles, Seigneur. Et merci d'avoir répondu favorablement à leurs prières. Oh, merci Jésus. Nous les accueillons dans ta grande famille, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous prions pour que tu les aides, que tu les accompagnes désormais, que tu leur donnes la victoire. Merci Jésus de les avoir, d'avoir délivré certaines de ces personnes d'un passé sombre, d'un passé terrible, et de leur donner désormais l'assurance du pardon, que désormais leur passé est sous le signe de la croix. Merci Jésus. Merci Maître.